Ok.
Oui, alors.
Donc, on a commencé dans le Perek Mem Aleph. C'est une suite directe du Perek Mem, du chapitre 40, dans lequel on a parlé, on a expliqué que la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'était les deux ailes indispensables. Ira et Ahava, c'est les deux ailes indispensables, c'est la Kavana. On a expliqué que même si une mitzvah sans la Kavana est quand même une mitzvah, mais la Kavana était tellement belle que c'est dommage de passer à côté. On a expliqué que principalement, la Kavana c'est quoi? La Kavana c'est Ira et Ahava, c'est craindre et aimer à Kadosh Baruch Hu, comme on aura l'occasion de le développer. Alors, on a commencé à développer dans le chapitre 41. Et comme je vous avais dit, à partir du chapitre 41, on va reprendre des notions. On va reprendre des notions qu'on a déjà vues avant dans le Tanya. Et on va les développer un peu mieux. On a repris la notion de Ira Tachem, la notion de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a expliqué plusieurs détails dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Premièrement, on a expliqué comment il était facile psychologiquement de craindre Akadosh Baruch Hu, en s'imaginant comment Dieu est très grand et nous sommes très petits. Ensuite, on a expliqué que, mis à part cette crainte-là, il faut s'imaginer comment Akadosh Baruch Hu nous a permis de nous attacher à lui par l'intermédiaire de ses mitzvot. Ça, c'est de manière générale. Et comment, en détail, dans chaque mitzvah, on peut retrouver une kavana particulière. On avait donné l'exemple du talit et des tefilim. Ensuite, le cours suivant, on avait expliqué le concept de Ben et Eved. Toujours pour expliquer le concept de crainte, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on avait dit qu'on peut servir Akadosh Baruch Hu comme un fils, ça représente l'amour. On peut servir Akadosh Baruch Hu comme un esclave, et ça représente la crainte. Donc on avait un long cours dans lequel on avait expliqué l'importance de servir Akadosh Baruch Hu par la crainte, et on avait expliqué aussi pourquoi c'était très important de commencer par la crainte d'abord, parce que c'est ça ce qui nous montrait où était
le
centre d'intérêt.
Le point focal.
Est-ce que le but c'est Dieu, ou est-ce que le but c'est moi? Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué jusqu'à... Je voulais pas dire ça, mais...
On l'a entendu. On l'a entendu, on sait.
C'était Kavana Ritsa.
C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à... Il y a deux cours en arrière. Voilà. Dans le dernier cours qu'on a fait avant Pessah, on s'est rentré dans un grand ridouche, dans une grande nouveauté.
Ah.
C'est quoi la grande nouveauté?
C'était avant Pessah aussi. Hein.
Jusqu'à présent...
Il y avait du coca.
Qu'est-ce que tu as trouvé?
Jusqu'à présent, il y avait du coca.
Il a trouvé des assiettes.
Azak.
Tu peux faire
il a amené mon frère des boissons.
Il a parié dans
ça. Ouais, c'est ça. On dirait on peut faire le chiche tout dessus.
Tu veux pas ou...
Non, si, c'est très bien. Ah, je fais aucun reproche.
Désobligeant.
Donc, les gens qui se bougent pas, ils se taisent.
Ouais,
c'est ça. Celui qui bouge pas, il va parler.
Celui qui veut pas se démêler, il va s'écraser.
Il y a des grandes bouches qui parlent d'un peu.
Donc, quelle est la nouveauté qu'on a commencé Quelle est la nouveauté qu'on a commencé dans le chapitre de... Enfin, qu'on a commencé, pardon, dans le dernier cours avant Pessah. Jusqu'à présent, on était un petit peu... dans tout le Tania, on travaillait d'un travail un petit peu, j'ai envie de dire, égoïste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que j'entends par égoïste? Ça veut dire que c'était entre Dieu et l'homme. Ça veut dire qu'à la limite, je peux habiter en plein milieu d'un désert. On n'a pas du tout parlé du concept de Klal Israël, du fait qu'on fait partie d'un ensemble et qu'il y a le Klal Israël et qu'on n'est pas seul. On n'a pratiquement pas parlé de ça.
Dans le 32, on a parlé.
Oui, on a parlé de Avat Israël, c'est vrai. Mais majoritairement, la manière de voir les choses du Tanya, jusqu'à présent, on a expliqué qu'un juif, à savoir, il a une âme divine, il a une âme animale, mais c'était un petit peu... Ouais, ça veut dire que je peux faire ça chez moi à la maison sans qu'il n'y ait personne autour de moi. Là, on a rajouté un nouvel élément qui est très important. Un nouvel élément qui est très important, qui dit... On a un autre de la Gemara Brachot qui dit « Le'olam adyoti adam atmo minaklal » qu'un homme ne doit jamais se sortir, s'exclure minaklal du klal. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce concept de klal.
On avait parlé du bateau.
Justement. On avait expliqué que le concept du klal, c'est quoi, hein?
Il y a dit Ravasmin, Shabbat, non?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Un trou dans sa cabine.
Vous avez un étage, vous avez un étage.
Ah oui, oui. Alors, Le'olam adyoti adam...
J'aime bien cet exemple du bateau. Mais dans les bateaux aujourd'hui, il y a plusieurs étages. Tu peux faire un trou dans une cabine, il n'y a pas le fond du bateau. Et ça gêne personne.
Franchement, dans l'exemple, on prendrait un bateau.
Non, j'aime bien faire des contre-exemples. Allez-y.
J'ai pas donné l'exemple du bateau.
Comment?
J'ai dit, moi, j'ai pas donné l'exemple du bateau.
T'as bien fait, tu savais qu'il était attaquable.
J'ai dit qu'il y en a qui donnent l'exemple du bateau, mais j'ai dit que le Tania, il va plus loin que l'exemple du bateau.
Le Tania, je vais pas voir.
C'est quoi le concept? Parce que j'avais expliqué que c'est quoi le...
Un exemple du radeau.
Du radeau.
Moi, j'avais posé encore une meilleure question sur l'exemple du bateau.
Tu vois?
J'ai dit que l'exemple du bateau, c'est quoi l'exemple du bateau? C'est de dire, tu ne peux pas faire un trou dans ta cabine, Parce qu'en faisant un trou dans ta cabine, le bateau il va se noyer. Maintenant, disons que j'ai réussi à faire que ma chambre est hermétique. Et que même s'il y a de l'eau qui va rentrer, le bateau va pas couler. C'est possible techniquement ou pas?
C'est possible. C'est possible. C'est un peu comme je dis.
Donc, voilà. Donc c'est possible. Là, le chidouche de la Mourazaken, c'est pas ça. Le chidouche de la Mourazaken dit, c'est pas ça, Aluti Adam Ashtuminakal. Quand on dit qu'un homme ne doit pas sortir du klal, le klal Israël, c'est pas un ensemble de particuliers. Là, effectivement, si c'est le klal Israël était un ensemble de particuliers, là, effectivement, vous aurez raison. Si on a un ensemble de particuliers, on a des règles de bonne entente, mais si j'arrive à trouver mon bateau, à trouver ma chambre sans que ça fasse couler le bateau, je fais ce que je veux, je suis chez moi. On a un ensemble de particuliers. C'est pas ça, klal Israël. Klal Israël, c'est un seul ensemble, c'est une seule entité. Et on en avait parlé dans le Perek même. Il avait expliqué les millions et les billions de Neshamot. Bon. Ouais. Alors c'est quoi Aluti Adam Atmo Minaklal? On a expliqué comme ça. Un ensemble, c'est pas un ensemble de particules, mais c'est une seule entité.
Voilà, on dit la somme des. C'était pas égal à la somme des éléments, c'est pas égal à l'élément de la somme.
Ah.
Oui. Dans certaines opérations, il y a certaines choses où c'est pas vrai.
Dans le triangle, là?
Je crois dans les inégalités, par exemple.
On dit comme ça. Alors c'est quoi le Aluti Adam Atmo Minaklal? Et c'est là qu'on est rentré dans le concept de Messirut Nefesh. Le fait de dire qu'un juif, il doit savoir que jusqu'à présent, on a travaillé un petit peu de manière égoïste. Ça veut dire quoi de manière égoïste? Ça veut dire, je dis pourquoi moi je fais les mitzvot? C'est moi qui aime Dieu, c'est moi qui crains Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, j'ai un certain plaisir. J'ai pas dit que c'est un plaisir matériel, ok? C'est certes peut-être pas toujours un plaisir matériel, bien que dans l'étude, c'est très souvent un plaisir matériel. C'est même en général un plaisir matériel. Disons que dans la majorité des mitzvot, il n'y a pas de plaisir matériel, disons.
Pourquoi tu dis que l'étude, c'est un plaisir matériel?
Il y a un plaisir matériel, c'est-à-dire que la personne, il y a un plaisir matériel, c'est une science.
Si pour qu'intellectuel, c'est un plaisir matériel?
Oui, c'est une science, ça aussi. J'appelle ça matériel parce que c'est pas un rapport forcément avec la Neshama. Azak. Où t'es parti? Ah, t'es parti à...
Non, franchement, tu vas nous manquer encore plus que prévu, hein.
J'ai envoyé chez l'arabe, il est...
Qu'il reste, qu'il reste.
Il est allé
chez Franprix. Il est
chez Franprix.
C'est
cher,
c'est l'arabe.
Hein?
C'est cher,
donc
il y a Franprix. Ouais.
Avec l'arabe,
j'ai l'arabe. Donc c'est quoi, Aluti Adam Atmo Minaklal? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que... Qu'est-ce que je suis en train de dire, Aluti Adam Atmo Minaklal?
Oui.
Ça veut dire que... On est en train de parler de quoi? Oui, c'est pour
qu'intellectuel.
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qu'on retrouve pas spécial, on retrouve pas seulement dans le monde juif. On retrouve ça chez les goyim aussi. Ça veut dire que ça n'a pas un rapport avec la neshama. Donc, disons que je parle pas de l'étude, disons que je parle d'une mitzvah, que je ressens aucun plaisir. Bon. Mais quand même, je suis en train de construire, mon Gan Eden. Je suis en train de construire mon Lamaba. Je construis mon patrimoine spirituel. Donc, même si matériellement j'ai rien
ressenti,
j'ai investi. Je me dis, bon, disons qu'aujourd'hui en bas, je sens rien, mais bon, comme on avait raconté dans l'histoire, qu'on a raconté à Soulet Machiar, on vit 70-80 ans, mais après on arrivera au Gan Eden en haut. Bon, alors on va souffrir un peu ici, mais après on arrivera au Gan Eden. Là, Admon Razaken, il dit, c'est quoi le Yotzed Amato Minaklal? Ça veut dire qu'un juif, il doit savoir, à certains moments, on doit savoir dépasser ce paramètre-là, aller encore plus loin que ce paramètre-là. De ne pas faire une mitzvah pour construire son patrimoine spirituel, mais de faire une mitzvah pour s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. On avait donné l'exemple, histoire avec le migvé, etc. Bon. Alors, et c'est ça qu'on nous dit ici, on a expliqué que c'est le concept du Lechem Ichud. Avant de faire chaque mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Lechem Ichud Kutchav Richu Shrinte. On dit que pourquoi on fait cette mitzvah? C'est pour unir Kutchav Richu et Sashrina. Beshem Kol Israël, d'accord, etc. Beshem Kol Israël, au nom Kol Israël, ou tout le peuple juif. Alors on a plusieurs questions qu'on a posées sur ce Lechem Ichud. D'abord, premièrement, ça veut dire quoi unir Kutchav Richu et Shrinte? Qu'est-ce qu'ils sont en dispute? C'est le Dieu et la Shrina sont en dispute et nous on est là pour
d'abord,
faire le Shalom.
On ne sait pas ce que ça veut dire.
D'abord, on ne sait pas. Oui, justement.
Alors, c'est là, que vous savez, moi je ne sais pas.
On a compris qu'il s'agit de Dieu, de sa Shrina, mais ça veut dire quoi? C'est quoi faire
c'est
le.
Moi, je veux la Shrina,
hein. Ça veut dire quoi faire l'unité entre Kutchav Richu et sa Shrina? Première question qu'on a posée. Deuxième question, entre autres des questions qu'on avait posées. Ça veut dire quoi, Beshem Kol Israël? Je dis que je le fais au nom de tout le peuple juif. Mais qui m'a nommé pour le faire au nom de tout le peuple juif? Je le fais pour moi, pas de problème. Qu'est-ce que je dis, Beshem Kol Israël? On m'a demandé l'heure. Fais-le pour toi déjà.
C'est comme ça que les rabbins ont écrit.
Alors, c'est quoi le sens de ce Lechem Ichud? Qu'est-ce qui veut dire ce Lechem Ichud? Ce Lechem Ichud est important, puisqu'on n'a pas demandé seulement aux tzadikim de le faire, on nous demande de le dire. C'est quoi le concept de ce Lechem Ichud? On a expliqué que le Lechem Ichud, c'est exactement le concept de Al Yoti Adam Atzmo Min HaKlal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on nous dit que c'est quoi Kutchav Richu et Shrinte? Kutchav Richu, ça représente Akadosh Baruch Hu tel que, entre guillemets, il ne descend pas dans le monde. Quand je dis ne descend pas dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est Dieu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va transcender le monde, qui ne va pas s'adapter à la matérialité du monde. il ne va pas descendre à la matérialité du monde. Je vais expliquer l'autre côté pour qu'on comprenne mieux. C'est quoi Shrinte? Shrinte, ça vient de Shochena Kumit la Béchette. Ça veut dire que c'est la lumière de Dieu qui va descendre et qui va s'adapter selon l'endroit où on se trouve. Comme on a donné l'exemple, par exemple, si j'ai un verre ici, si le verre ici tient, c'est parce qu'il y a obligatoirement une lumière de Dieu qui le fait tenir, sinon il ne tient pas. Est-ce que je vois la lumière de Dieu? Non. Pourquoi je ne vois pas la lumière de Dieu? Ça, c'est une lumière de Dieu qui rentre dans la catégorie de Shrina. Donc vous comprenez bien que le Shrina, c'est un terme qui est très vaste. Il n'y a rien de particulier qui est Shrina. Shrina, ça veut dire Dieu, celle qui s'adapte dans le monde. On a expliqué que, une notion qu'on verra en vérité dans chapitre 48 et 49, c'est la différence entre Memale et Sovev Kolalmin. Memale Kolalmin, Sovev Kolalmin. Ça revient très souvent dans le Zohar, dans la Kabbalah. Entre Akadosh Baruch Hu, tel qu'il descend, tel qu'il intègre le monde, et Akadosh Baruch Hu, tel qu'il transcende le monde. Bon. C'est quoi le problème qu'on a? Le problème qu'on a, c'est que Kudsha Brichu et Shrinte ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ça veut dire que, d'un côté, on a Shrinte, c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il descend, tel qu'il intègre le monde. D'accord? Ça veut dire tel qu'il intègre le monde et on ne le voit plus. D'un autre côté, on a Kudsha Brichu. Kudsha Brichu, ça représente Dieu tel qu'il est plus haut que tout ça.
On le voit.
D'accord? Non, je n'ai pas dit qu'on le voit. J'ai dit qu'il transcende le monde. Ça veut dire qu'il ne s'intègre pas dans le monde. Il est plus haut que tout ça. Très bien. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Kudsha Brichu et Shrinte ne sont pas en bon terme. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mitzvah? Le Rav Senzel, ça va donner l'exemple, il a dit quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le contact, comme dans l'électricité. Quand dans l'électricité, vous avez tout la centrale, tout qui est là, il suffit de mettre le contact, et quand on met le contact, c'est là qu'on profite de la centrale. De la même manière avec Kadosh Baruch Hu, le système qu'il a créé, Kadosh Baruch Hu, il a créé le système comme ça, il a créé Kudsha Brichu, il a créé Shrinte, c'est-à-dire il a créé une énergie très très forte en haut, et il a créé une énergie plus basse qui descend en bas. Et Dieu a fait le système que quand un juif fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contact entre les deux. Maintenant, vous allez me dire, ça c'est les calculs de Dieu, moi j'en ai rien à faire. Est-ce que moi je vais sentir quelque chose? Pas forcément. J'ai même pas envie de dire pas forcément, certainement pas. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire une mitzvah, je vais pas sentir comment j'ai fait un contact et comment en haut il y a des choses qui sont passées. Comme va le dire Admor HaZaken, c'est une union qui se passe principalement dans le monde de Hatzilut. Maintenant, le monde de Hatzilut, je sais même pas si quand on sera au Gan Eden, on aura accès à ce monde-là. Le Gan Eden, c'est dans Olam HaBria.
Oh oui.
D'accord? Alors, ça veut dire, pourquoi je dis ça? Pour nous montrer, pour dire que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est quelque chose qu'on pourra même pas ressentir. Encore, tu me dis, je travaille ici, je construis mon Gan Eden en haut, je monte en haut, je profite. Bon, je vois pas, il n'y a pas de problème. Je te crois, je te fais confiance Dieu. Là, on te dit, quand tu monteras en haut, tu verras même pas ce que tu as fait, tu vas même pas profiter. Parce que certainement que quand on arrivera au Gan Eden, on a dit que le Gan Eden c'est le monde de Bria, on verra même pas le monde d'Atsilut. Donc ça veut dire qu'on fait un travail, on verra jamais le résultat. C'est ça? Et c'est ça le concept du Lechem Ichud. Je fais une mitzvah. Je dis que d'abord je fais la mitzvah, bien entendu, mais je dis pourquoi je fais la mitzvah, pour qu'en haut il se passe des choses. Là, dans ce Lechem Ichud, on a ici un niveau de Messirut Nefesh très très fort. Le fait de dire que, au final, pourquoi je fais une mitzvah, on va développer ce point-là, c'est un point qui est très fort, qu'au final, pourquoi je fais une mitzvah, c'est pas pour, bien qu'il y aura un salaire en haut, j'ai pas dit qu'il y aura pas de salaire, il y aura un salaire en haut. Mais c'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. Pourquoi je fais la mitzvah? Je fais la mitzvah parce que Dieu m'a demandé. Ça, c'est un point, on s'arrêtait sur ce point-là. C'est un point qui, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc on va voir ce que l'Admor HaZaken a à nous dire dessus. Alors, quel rapport avec le fait de ne pas s'exclure des autres?
Il y a un rapport avec dans la Mida déjà qu'on dit tout nous et pas tout.
Oui, oui, bien sûr, on va parler. Le fait que des fois on parle à Dieu, des fois on dit Baruch Ata Hashem, donc on parle de Dieu qu'il est présent en face de nous. D'autres fois, on parle de la grandeur de Dieu. D'accord. Oui. Oui, on va parler de tout ça. Alors, là, donc déjà, pour répondre à ta question, Ayoti Adam Atsomina Klal, ça veut dire quoi quand on dit qu'un homme ne doit pas s'exclure du Klal? Ça veut dire qu'il doit savoir que quand il fait une mitzvah, ça veut dire quoi, Mina Klal? Ça veut dire que quand je vais faire une mitzvah, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, la racine de toutes les Neshamot, donc la Neshama mère, elle va se lier avec Akadosh Baruch Hu. Et ça va faire Ichud Kudsha Brichu ou Shrinte. Même si moi je le sens pas. Même si moi je le sens pas, c'est ce qui va se passer. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis Beshem Kol Israël, que je le fais au nom de tout peuple juif. Personne m'a demandé l'heure. Pourquoi je dis Beshem Kol Israël? Parce que c'est un fait que quand je veux faire une mitzvah, la maison mère des Neshamot, elle va s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Donc, même si je veux le faire que pour moi, dans les faits, tout le peuple juif va en profiter. C'est ce qu'on a expliqué en gros. Maintenant, on va devoir expliquer un peu plus ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour le Gan Eden? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, le Admor HaZaken va expliquer. On s'est arrêté, donc, je dis à « Ve'av Sheliot ». Bon. « Ve'av Sheliot » que va nous dire. Donc là, « Ve'zeo plus rouge », voilà. « Ve'av Sheliot » que va nous dire à Mithid Belibo. Admor HaZaken l'Admor HaZaken, on a remarqué depuis le début du Tania, que l'Admor HaZaken demande, l'Admor HaZaken nous demande une très grande honnêteté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. On n'a pas le droit de dire que, on n'a pas le droit de se dire qu'on a un tzaddik alors qu'on ne l'est pas. C'est pour ça que l'Admor HaZaken nous dit, il y a le Benoni, il y a le tzaddik, il y a le Racha, il y a le Racha Vetovlo, il y a le Racha Veralo, et à chaque fois on devait se situer. Mais chaque fois on a vu que l'Admor HaZaken, c'est très important pour lui de ne pas, j'ai envie de dire qu'on ne se carotte pas. On ne se tombe pas la tête. Ça veut dire la vérité reste la vérité. On ne crée pas des illusions. Il n'y a pas de désillusions. Ça n'existe pas. J'ai pas dit qu'on va tous devenir des Benoni, mais on a vu comment chez l'Admor HaZaken, le concept de Emet, le concept de la vérité, c'est un concept qui est très important. D'ailleurs, l'Admor HaZaken avait dit, c'est écrit dans Yom Yom, c'est raconté dans Yom que l'Admor HaZaken a raconté, l'Admor HaZaken à l'époque, il avait quelques milliers de chassidim. À l'époque, c'était beaucoup. Il a dit que s'il n'avait pas exigé le Emet de ses chassidim, il aurait eu au moins 50 000 chassidim en plus. Dans les notions de l'époque, d'accord, les proportions de l'époque, c'est énorme. Pourquoi l'Admor HaZaken a dit ça? Pour dire que, pour lui, la notion de Emet est très importante. Et c'est pour ça qu'on a vu déjà dès le premier chapitre du Tanya. Dans le premier chapitre du Tanya, quand on a vu, il a ramené la phrase que, au Beit HaMidrash, il parlait Abaye et Rava, et Rava, à un moment, il a dit, comme moi, par exemple, je suis Benoni. L'Admor HaZaken, il pose la question, il dit, mais comment on peut dire que Rava est Benoni? Alors, il y a des commentaires qui vont répondre, ils vont dire, non, c'est une manière de parler, c'est une façon de parler. On a vu comment tout au long du Tanya, l'Admor HaZaken n'explique jamais les choses comme ça. Quand c'est écrit que Rava dit que moi je suis Benoni, ça veut dire que Rava, Alpi et Emet, selon la vérité, il avait une manière de voir qu'il est Benoni. Et il le pensait réellement. C'est pas simplement, c'est pas une fausse anava, c'est pas une fausse humilité. D'accord? Comme ça l'Admor HaZaken avait dit aussi à la fin du Perek même, quand on avait dit qu'il o idar mimenu nidar, que personne ne sera repoussé d'Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué que l'Admor HaZaken n'y voit pas ça comme un terme poétique, mais il voit ça comme, vraiment ça va se passer comme ça, qu'au final, tout le monde finira par revenir chez Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque l'Admor HaZaken, il part du principe qu'on ne peut pas se mentir, on ne crée pas d'illusions, vous imaginez que quand ici, il vient de nous dire qu'avant de faire une mitzvah, on dit le Lechem Yichud. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Lechem Yichud? Dans le Lechem Yichud, on est en train de te dire que je vais créer une kavana, que pourquoi je fais la mitzvah, pour qu'en haut vont se passer des choses. L'Admor HaZaken dit, mais attends, déjà le juif, il a du mal à sentir que lui, il a envie de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Déjà, on a du mal à avoir un amour égoïste, entre guillemets. C'est-à-dire que pourquoi j'ai envie de faire une mitzvah? Pour m'approcher de Dieu, moi, pour profiter moi. Ça, déjà, c'est difficile. Tu me demandes maintenant de dépasser ça et de me dire que non, pas seulement ça, mais en vérité, je le fais même pas pour moi, ni pour mon gagnant, je le fais pour Dieu. Mais ça, personne peut arriver à ça, c'est une illusion, ça. Même celui qui va arriver à ça, c'est une illusion. C'est du pipeau. C'est les grands tzadikim, ça. Nous, on apprend maintenant Sefer Shel Benonim. On apprend le livre des Benonim. Quand Admor HaZaken ne passe pas à côté de cette question. Il dit, ve'af, chez Liot, Kavanazo, Amitit Velibo, bien, que pour que cette Kavana soit une vraie Kavana dans son cœur. Parce que bien entendu, on peut réfléchir, et se faire croire qu'on croit, mais en vérité, on ne croit pas. On est à côté. Bien que, si on voudrait que cette Kavana soit une vraie Kavana, chez Yelibo, Chafet, Be'emet, Irud, Aelionazé, que mon cœur veuille vraiment cette union-là. Bien sûr, si tu vas me dire, on va venir me voir ici, de rue Paul Enfer, on va dire, Mendy Assouline, qu'est-ce que tu en penses, si en haut, on va unir Kutchabrikou et Shrinte. Bah, je veux dire, pourquoi pas, ça coûte de l'argent, c'est pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais, si l'Admor HaZaken dit, la question va se poser, est-ce que vraiment, au fond de toi, tu veux? De manière générale, au fond de moi, je le veux pas. Attends déjà que j'ai envie de moi de m'approcher.
Je comprends rien.
Pardon?
Je veux pas parce qu'en plus je comprends rien.
Oui, d'accord.
C'est le non-vouloir, il est certainement aussi...
Il est certainement...
On ne peut pas dire qu'on veut pas.
On le sent pas, vous voulez dire. Oui. Non, on peut comprendre ce qui se passe, il a expliqué.
Ce que tu veux, tu me dis c'est une bonne chose, d'accord, je suis d'accord.
Il n'y a pas de problème.
Mais je le veux comme je veux telle chose.
Tu peux pas le vouloir.
Non, je ne sais pas de quoi il s'agit, quoi.
Je ne peux pas le vouloir. Ouais. Ça veut dire, encore si tu me dis tu vas travailler, un jour tu auras le Gan Eden. Même si maintenant je connais pas le Gan Eden, mais je peux me convaincre. Quand j'ai, bon, le Gan Eden, je veux dire les tzadikim, on a des éléments de quoi se convaincre. Mais là,
c'est pas la mer, le cottage, je sais pas bien.
C'est pas là?
C'est pas la mer, la plage et le cottage, c'est les tzadikim.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'imaginer un petit peu le Olam Haba quand on voit ici des tzadikim. Donc on se dit, le Olam Haba, ça sera un monde spirituel. Donc on peut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire spirituel. Donc on a de quoi se convaincre. Mais là, quand tu me dis que quand je fais une mitzvah, tu vas unir en Kutchebechou ou Shrinte, ça m'intéresse pas. Alors, pourquoi tu me demandes de faire le Lechem Yichud? Est-ce que c'est du pipeau, ce Lechem Yichud? C'est une illusion. À quoi ça sert? Donc il dit comme ça, l'Admor HaZaken, il pose la question. Il dit, bien que pour cette union, pour avoir cette kavana, avoir la kavana, que pourquoi je fais la mitzvah, pour qu'en haut, il va se passer des choses, Tsarich liot belibo ahava rabba l'Hachem levado. Pour arriver à ce niveau-là, la personne devrait avoir un amour que pour Dieu. Ça veut dire qu'il ne devrait pas du tout s'aimer. Ça veut dire pas du tout, rien faire pour soi, pour sa personne, tout faire pour Dieu. Ça, c'est le niveau des grands tzadikim. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Le niveau des grands tzadikim. Donc là, Nour HaZaken pose la question, il dit « La'asot nachadroach lefanav, velo leravot nafshot ma'al Hashem ». Ça veut dire qu'on devrait parler d'un niveau d'un tellement grand tzadik que quand il fait une mitzvah, c'est uniquement pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas pour leravot nafshot ma'al Hashem, ça veut dire pour, désaltérer, Nafsho Atmei Hashem, son âme qui est assoiffée d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, imaginez, on parle déjà de quelqu'un qui sent la soif de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Elle va, et ce serait bien si on arrive à ce niveau-là. Et on te dit, même ça, c'est pas suffisant. Moi, c'est un quelqu'un, mais attends, c'est pas pour nous, ça. Et là, comme dit le Zohar, on devrait être à un niveau, Admor HaZaken, il explique bien la question. Kebara deishtadel batar avu yveime, donc ça on l'a dit la dernière fois, il y a deux semaines. Derachim lon yater migarme venafshe, kemoshe katouvlel bashem raya memena. Le raya memena, c'est une partie dans le Zohar. C'est une partie dans le Raya Memna, ça veut dire, littéralement, c'est le berger fidèle. Il y a une partie dans le Zohar qui s'appelle Raya Memna, parce qu'on dit que c'est des paroles qui nous viennent de Moshe Rabbeinu. D'accord? Que selon la tradition, on dit que c'est des paroles qui nous viennent de Moshe Rabbeinu.
Possible, ça, hein.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Raya Memna? Dans le Raya Memna, il dit que, on doit aimer Akadosh Baruch, que les grands tzadikim, enfin, on devrait s'efforcer à aimer Akadosh Baruch Hu, comme un fils, d'accord? On l'a vu dans le chapitre 7, comme un fils, des Ishtadel Bataravu Ivehime, ça veut dire qu'il va travailler pour son père et sa mère, qui va les aimer plus que soi-même. Il va faire tout pour son père et sa mère. Bon, on a dit que ça c'est le fils, ça c'est le ben optimal, hein. Je sais pas si ça existe comme ça. Alvaï. Bon.
C'est logique dans les pays...
Comme il y a bizarre.
Dans des pays sous-développés.
Non, je vais te dire, on le voit quand même. Oui, moi, il y a un endroit quand même où on le sent, c'est par rapport à son rave, ou à son rabbi. On sait très bien qu'un rabbi et ses chassidim, ou bien un rav et ses talmidim, on dit que les élèves, c'est un peu comme les enfants. Et on voit des fois, on a vu des fois des cas dans l'histoire, comme on a vu comment des talmidim ont été capables de donner leur vie pour leur rav. C'est-à-dire même si eux, ils ont été capables de donner leur vie ou donner leur essence. Donc on peut retrouver ce concept-là. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc ça, tout ça, c'est la question qu'il pose à Admor HaZaken. La question qu'il pose à Admor HaZaken. Il dit, comment c'est possible?
On parle plus de la crainte. D'accord. On a fini avec la crainte.
Là, il a ouvert une parenthèse sur l'amour, mais on va récupérer la crainte juste après. C'est bien ce que tu dis. Pour l'instant, on parle de l'amour. Nous, on a expliqué le Lechem Ichoud. Lechem Ichoud, ça veut dire que pourquoi je fais une mitzvah, je dois avoir aussi une kavana d'unir Kutcham Ichoud Shanté. J'ai dit, mais attends, comment tu veux que cette kavana soit honnête et que ce soit pas une illusion? C'est pas possible. C'est impossible. D'accord. Déjà, d'avoir une kavana, de fait que pourquoi je fais la mitzvah pour désaltérer mon âme qui a soif de Dieu, alvaï, ça serait bien. Ça, comme j'ai dit la dernière fois, c'est le niveau des baal et tchouva. Vous savez, les gens, quand ils viennent faire tchouva, vous les voyez, ils sont à l'affût de chaque mitzvah. Vous avez l'impression qu'ils ont une soif. Ils ont une soif énorme. C'est déjà pas mal. C'est super. Alvaï qu'on arrive à ce niveau-là.
Ils ont rien bu pendant des années, c'est normal. Hein.
Oui. Et là, ils sont en train de boire, jusqu'à un moment, après, à la fin, ils se calment un petit peu. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le Lechem Ichoud, c'est plus que ça. Tu le fais même pas pour ta personne, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une illusion? Puisqu'on fait très attention à Tania, à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on exige soit vrai, est-ce que le Lechem Ichoud est vrai ou faux? Explique l'Admor HaZaken. Mikol Makom, quand même. Bien que, quand on présenté tel qu'on vient de le présenter, on a l'impression que c'est pas pour nous. Et à la limite, on aurait envie d'arrêter de dire le Lechem Ichoud. Ce soir, quand on va faire Sirat HaOmer, vraiment, on aurait presque envie de pas le dire, parce que je dis, et je le pense pas, pourquoi tu veux que je le dise? Mikol Makom, quand même. Yesh l'chol adam, l'argil atzmo bekavanazo. Chaque personne, là on va expliquer comme ça, chaque personne doit s'habituer à essayer d'avoir cette kavana. La preuve, on nous demande de dire le Lechem Ichoud. Ça veut dire qu'à un certain moment de la journée, il faut réfléchir comme ça, il faut réfléchir que pourquoi je fais la mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu. Alors, il explique le Admor HaZaken. Af she'eina be'emet la'amito. Bien que cette kavana n'est pas be'emet la'amito. Emet la'amito, c'est une expression qu'on a vue aussi dans le chapitre 14. Emet la'amito, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité de la vérité. Vous avez des fois des choses comme ça, que ça veut dire que c'est pas un mensonge. Je peux pas dire que c'est un mensonge. C'est comme ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que tu sais que quand tu vas faire une mitzvah, on va unir Kutcham Ichoud Shrinté? Est-ce que t'es intéressé? Je dis oui, je suis intéressé. C'est vrai que je suis intéressé, c'est pas un mensonge. Mais c'est pas la vérité de la vérité. Parce que, au fond de moi, je suis pas spécialement intéressé. Je sais pas si j'aurais donné ma vie pour ça. Alors, bien que c'est pas la vérité de la vérité, il faut quand même le faire. Pourquoi? chez Yarpots, basé Bechol Libo. Mikol Makom, Me'at Miser, Chafetz Libo, basé Behemet. C'est ce que dit l'Admor HaZaken. Même si, on ne peut pas avoir envie de ça à 100%, on ne peut pas avoir envie de l'union de Kutcha Bechou Shrinte. C'est-à-dire en d'autres termes, parce que ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas demander à un juif de faire une mitzvah que pour Dieu, sans avoir un intérêt au moins même spirituel. C'est pas notre niveau. Mais, il nous explique l'Admor HaZaken, « Me'at miser chafetz libo bazé behemet, mipne ahava tiv'it shebelev kol Israël, la'asot kol mashu rasson alion baruchu. » Il explique comme ça l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il dit que, vous vous rappelez, on avait parlé dans le chapitre 18, on avait parlé de l'ahava tiv'it, de l'amour caché qu'on a, et qu'on a hérité ça de qui, d'accord, on a hérité ça
d'Abraham.
D'Abraham Avinu. D'accord. Dans cet amour caché, il y a deux parties. C'est quoi les deux parties qu'il y a? Premièrement, c'est que, comme qui dit amour, ça veut dire que j'ai envie de m'approcher de Dieu. C'est ça l'amour. L'amour, ça veut dire vouloir s'approcher de quelqu'un.
La volonté, comme disait le...
Ça, c'est un premier point. Un deuxième point... Pardon?
Hein? Il cite le maral au passage, c'est tout.
Ouais. Parce que je sais pas de quoi tu parles, c'est pour ça.
Être sur la même longueur d'onde, avoir la même volonté. C'est ce qu'il appelle l'amour, parce que c'est difficile de mettre à chaque.
Ah, d'accord, j'ai compris. Ah oui, tu nous as fait une parenthèse, là. Parenthèse.
J'ai vu une petite Agal et Yaakov.
Agal et Yaakov.
Agal.
On l'a pas fait, là, Agal.
Ouais. Donc, il dit comme ça. Il dit, bien que... Alors, c'est quoi cet amour caché qu'on a envers un Kadosh Baruch Hu? Cet amour caché qu'on a envers un Kadosh Baruch Hu, premièrement, c'est un amour qui dit que... C'est un amour qui dit qu'on a envie de s'attacher à Dieu. Comme quand on aime quelqu'un, on a envie de s'attacher à lui. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand on aime quelqu'un, non seulement qu'on a envie de s'attacher à lui, mais on a envie de faire tout ce qui lui fera plaisir. Vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple au début, quand on avait commencé à étudier le chapitre 41. J'ai dit, quand on a par exemple des gens qui ont des amours interdits, d'accord ? Et on voit, ils aiment vraiment, par exemple un homme, il aime vraiment une autre femme, une femme qui est déjà mariée. Il aime vraiment, ça ne veut pas dire qu'il aime pas, il aime vraiment.
Ah, ça s'appelle aimer, là.
Qu'est-ce qu'on a dit ?
D'accord, oui.
On a dit que ça ne peut pas être appelé aimer à 100%, pourquoi ?
C'est pas aimé.
D'accord, ça ne peut pas être appelé un réel amour, pourquoi ? Parce qu'en vérité, il ne veut pas le bien de la personne à 100%. En vérité, ce qu'il veut, c'est son bien. Ouais.
Il est fort.
Ouais, il a raison. D'accord. En vérité, ce qu'il veut, c'est pas le bien de la personne, mais c'est son bien. C'est un bien qui est égoïste. Comme ce que vous avez raconté avec l'histoire de Yaakov et Rachel. Bien à votre hôte. Non.
De la piane.
D'accord.
De la piane,
d'accord. Alors maintenant, ce qu'on dit, c'est comme ça. De la même manière, quand nous, on aime Akadosh Baruch Hu, il y a ces deux détails-là. Il y a deux détails que j'ai dit dans l'amour. Premièrement, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de m'approcher de lui. Deuxièmement, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de faire ce qui est bien pour lui. J'ai envie de faire, même si à cause de ça, je vais devoir m'éloigner de lui. Je vais faire ce qui est bien pour lui. De la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu. On a ces deux détails. Premièrement, j'aime un juif par nature, il aime à Kadosh Baruch Hu. Et comme il expliquera Admor HaZaken, ça c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde est à cette portée qu'on peut accomplir une mitzvah. On peut accomplir une mitzvah et réveiller un sentiment d'amour vers Kadosh Baruch Hu. On expliquera des méthodes de la même manière qu'on expliquait des méthodes pour la crainte.
Mais c'est accessible. Est-ce que je me fais plaisir quand je fais...
Bien sûr.
Quand je fais plaisir à
oui.
Dieu. Donc c'est pas des...
Ça c'est, alors justement, ça c'est le premier détail. Premier détail dans l'amour que j'ai envie de m'approcher de Dieu. Ça c'est le premier détail de l'amour. On a expliqué que dans l'amour, il y a un deuxième détail. C'est quoi le deuxième détail? C'est de faire ce qui fait plaisir à la personne, même si à cause de ça, je vais devoir m'éloigner de la personne. Ça c'est le deuxième détail, ça correspond à quoi? Ça correspond au concept du Lechem Yichud. Le Lechem Yichud, ça veut dire je fais ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu,
oui.
Même si moi, au final, je ne veux pas sentir grand-chose. Parce que moi, je ne veux pas sentir comment je m'approche plus à Kadosh Baruch Hu.
Mais est-ce que ça me fait plaisir?
Explique l'Admor HaZaken. Non, je n'aurai pas de plaisir de ça. Je ne vais jamais ressentir le plaisir de ça. Explique l'Admor HaZaken. De manière générale, quand on parle de l'amour caché qu'un juif il a en soi vers Kadosh Baruch Hu, on parle plutôt du premier détail. Qu'un juif, en lui, il a envie de s'attacher à Dieu.
Voilà.
D'accord ? Ça veut dire, j'ai envie de dire, l'amour qui est quelque part un petit peu égoïste. Pas égoïste, mais bon, il faut que j'en ai un petit peu pour moi. Le deuxième détail, le juif, il a aussi, mais c'est très caché. Ça, c'est quelque chose que ça ne pourra jamais être dévoilé. Mais atmiser, comment on peut traduire mais atmiser ? Ça veut dire un chouïa,
ouais, d'accord ? Une quantité infinitésimale.
Une quantité ?
Infinitésimale.
Infinitésimale.
Ouais, ça veut dire infiniment petit.
D'accord. Infinitésimale. Je connais jamais entendu ce mot.
Tu as appris plein de choses déjà.
Oui, c'est ça. Enfin, un mot par semaine, pas plus.
Tu peux aller plus loin, hein.
Non, ce qu'il n'a pas compris, c'est que lui remarque que tu as appris un mot par semaine. Mais j'en prends plus.
Hein. Donc il dit comme ça. Donc il y a ces deux détails. Et ça c'est la réponse de la demande Zaken. La question qu'on a posée, ça c'est le concept, la réponse de la demande Zaken. La question qu'on a posée, on a dit, est-ce qu'on va dire que c'est une illusion? C'est une illusion que quand je dis le Shemichud, en vérité c'est une illusion, c'est du pipeau. C'est du pipeau, en vérité c'est faux. Va répondre la demande Zaken que non, c'est pas faux. Il y a quelques semaines, on avait donné un exemple. On avait dit, c'est comme si vous avez un enfant. Donc un enfant, quand il naît, il ne sait pas parler. Bon. Mais en lui, pourquoi on l'appelle Médaber? On appelle Médaber parce que en lui, il a la capacité de parler. Très bien. Maintenant, on va imaginer une situation. D'accord? Imaginez-vous, là, je prends ma petite fille devant moi. Elle a 2 ans. Et je veux lui apprendre des mots. Je veux dire, voilà, je veux lui apprendre des mots. Elle va répéter les mots après moi. Bon. Donc, vous allez avoir un spectateur qui va venir, qui va regarder la situation, qui va voir comment ma fille est en train de répéter mes mots. Qu'est-ce qu'il va dire ce spectateur?
Attends.
Ce spectateur, il va dire, non. Ce spectateur, il va dire, ta fille ne sait pas parler. Elle fait que répéter, elle fait que mimer ce que tu es en train de dire. C'est comme un perroquet. C'est un perroquet qui est en train d'imiter ce que tu as à dire. Il aurait pu penser comme ça. Pourquoi il dira pas ça? Pourquoi il dira ta fille parle? Parce que, on sait très bien, que puisque c'est quelque chose qui est inné dans l'homme, que l'homme sait parler, c'est seulement une question de temps, d'accord? Que la preuve, c'est que même si personne ne l'aurait appris à parler, la personne avec un certain temps, au bout d'un certain temps, se met à communiquer. D'accord? Se met à communiquer, comme d'ailleurs j'ai lu un midrash il n'y a pas longtemps qui dit que la langue par défaut, si vous prenez deux personnes, d'accord? Vous prenez deux personnes, vous les mettez dans un désert. Vous les mettez dans un désert sans que personne soit autour de vous. Vous leur donnez à manger, mais personne ne leur parle. Au bout de quelques années, ils vont se mettre à parler en hébreu. C'est leur langue par défaut.
D'où tu sais.
Midrash.
J'ai expérimenté 7 ans, il faut attendre 7 ou 8 ans.
C'est expérimenté.
Ouais, 7 ans, moi j'ai lu dans le Midrash.
J'ai lu le Rav Kouli, dans le Vermloès, il le rapporte.
Ouais. Moi j'ai le Midrash, dans le côté Midrash. Non, pas spécialement. C'est la langue par défaut de l'humanité.
Je sais que tout le monde peut parler. Oui. Tout le monde qu'on connaît.
Ah, vous dites qu'il y a déjà eu des expérimentations?
Rav Kouli, je dis dans le Vermloès, il rapportait.
Non, c'est...
Il n'y a pas d'animaux non plus.
Non, deux hommes, d'accord, au bout de quelques années, je crois que c'était 7 ans qui était écrit dans
son nom,
au bout de 7 ans, il se met à parler en hébreu. Ça veut dire quoi?
Il parle en hébreu.
Donc Tarzan, c'est du pipeau alors.
Mais
Tarzan, il parle avec des animaux.
Oui, mais il parlait pas en hébreu.
Mais parce que les animaux, ils parlaient...
Quand il a rencontré Jane, il parlait pas en hébreu.
C'est normal, c'est peut-être trop de temps.
D'abord, Jane, elle parlait pas... Elle était pas dans la jungle. Jane était pas dans la jungle, il veut dire...
Faut regarder le midrash, pas la télé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pourquoi j'amène cet exemple-là? Pour montrer que quand la personne va parler...
Le koach, il est déjà là.
Voilà, le koach, il est déjà là.
D'accord, on va pas dire qu'elle répète, parce qu'en vérité...
Bien qu'en vérité, ma fille est en train de répéter ce que je suis en train de dire. C'est vrai que techniquement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais en vérité, c'est pas ce qui se passe. En vérité, ce qui se passe, c'est que j'ai développé quelque chose qui était inné chez ma fille. Seulement, je l'ai développé un peu plus rapidement.
Anticipé, précipité.
Explique la Gemara Zaken, c'est exactement la même chose quand je dis mon le Shemichud. Je dis mon le Shemichud. Maintenant, moi, je connais pas, moi. C'est comme je suis en train de mimer ma fille à 2 ans. Maintenant, je lui dis un mot, elle le connaît pas toute seule, ce mot. Elle le connaît pas, ça, mais il faut que je l'apprenne.
Mais même elle sait pas ce que ça veut dire.
Elle sait même pas ce que ça veut dire. De la même manière, je dis le Lechemichut. Moi, je dis le Lechemichut, je comprends pas ton Lechemichut. Je le sens pas, ton Lechemichut. Alors, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que je suis un menteur? Est-ce que je suis en train de mimer quelque chose qu'on m'a dit? Réponds à la Mourazaken, non. T'es pas en train de mimer quelque chose qu'on t'a dit. T'es simplement en train de sauter des étapes. T'as brûlé des étapes. T'as réveillé quelque chose qui était en toi.
Ouais.
T'as réveillé quelque chose qui était en toi. C'est inné. C'est inné avant, mais sous tes rêves, c'est quelque chose qui est inné en toi. D'accord? Veillichutze. Ou, Retsono. Ah, mais tiens, l'exemple, c'est pas la Mourazaken. L'exemple, c'est pas la Mourazaken. C'est le Rastendel, c'est exemple. Il avait dit il y a quelques chapitres.
Excuse-moi.
Il est fort.
Il est très fort dans les exemples. Rastendel.
J'avais jamais vu.
J'ai vu à la télé comme ça. En direct.
Non.
Pour être capable de donner un exemple, il faut comprendre le sujet parfaitement.
Oui.
Un exemple au niveau de ceux qui t'écoutent surtout.
Ah, mais ça, pour donner un exemple de la vie réelle, il faut bien comprendre le sujet. C'était.
Non, c'est vraiment comprendre.
Il était longtemps directeur d'école.
Ah, donc.
Ça a jamais été rattrapé, c'est vrai.
C'est un chemin qui
est... Je fais une chita très fort.
Il a des écoles, je crois.
Il a plusieurs écoles. Je crois qu'il visitait une école à Jérusalem.
C'est vrai qu'il a une chita particulière. Il a une chita particulière.
On sent qu'il y a...
Il a des yeshivotes. Il a beaucoup d'yeshivotes aussi qui sont sous sa direction.
Et Lubavitch, ça va?
Ouais.
Ouais.
Mais vraiment...
Veillichutze.
Non, parce qu'il y a là, ils ont...
Non.
Ils ont la sympathie.
Mais ces écoles, elles sont pas Lubavitch, hein.
Non. C'est voulu.
Pourquoi c'est voulu?
Je sais pas, mais c'est pas Lubavitch, pas du tout.
Parce qu'il y a des gens que leur mission, c'est d'être à l'extérieur. De pas...
ah, c'est là, il est en mission. Quoi.
En mission.
Très fort.
Veyichudze, ou retsono amiti, vainu, ou ichuda elion, shebeatilut.
Non, après.
Anase. Bon. Ça, c'est un petit peu le, pour revenir, c'est un petit peu le concept de Messirut Nefesh qu'on exige ici. On a, il y a d'autres mouvements, d'accord, il y a d'autres mouvements dans lesquels leur but, c'est de construire leur mouvement. C'est-à-dire que toutes les grosses têtes et toutes les personnes qui sont, enfin, qui, toutes les personnes qui sont douées, on va les utiliser dans le mouvement pour construire le mouvement.
Oui.
Et donc, c'est un mouvement qui va grave réussir.
Comme une secte, quoi.
Non, c'est pas une secte.
C'est quelque partie, quand c'est un constat de noyauté.
Oui, non. C'est comme tu as une yeshiva, d'accord, tu as une yeshiva, les meilleurs éléments de la yeshiva, on va les prendre après par la suite pour venir enseigner à la yeshiva. Tu vois, c'est bon, c'est un exemple à plus petite échelle. D'accord. Et on voit comment dans le monde Rabat, bon, pas que d'ailleurs dans le monde Rabat, dans beaucoup d'autres endroits, il y a un petit peu ce concept de Messirut Nefesh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a délaissé un petit peu le mouvement, et que bon, on sait très bien que dans le mouvement, peut-être que pas tout se passera au top. Des fois, pas tout se passera au top. Ça veut dire que si on avait concentré toutes les forces sur le mouvement, il aurait décollé beaucoup plus.
Ouais, d'accord. Certaines figures, on d'accord sentait qu'elles avaient un potentiel. Laisse-les ici pour, voilà, faire démarrer, pour faire progresser le
mouvement. La shruna, par exemple, la shruna du rabbi.
Au lieu de le laisser démarrer de rien, mets-le dans le truc. Hein.
Et on a vu que non, qu'au contraire, qu'est-ce qu'il fait, enfin, pour prendre l'exemple du rabbi, mais il n'y a pas que ça chez Rabat, qu'est-ce qu'il fait le rabbi? Il les envoie au Nululu. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont très capables. La preuve, c'est que c'est des gens qui vont exploser. D'accord? Ils vont exploser ou ils sont dans l'endroit où ils seront.
Mais à partir de rien.
Ça, c'est le concept de Messirut Nefesh. C'est un Messirut Nefesh. Ça, j'ai envie de dire, c'est le Messirut Nefesh du rabbi. Il a, si vous voulez, il a un peu donné son mouvement. Il aurait pu construire son mouvement.
Il a sacrifié de son évolution.
Il a sacrifié. Bien sûr, c'est un fait qu'il a sacrifié.
Le Stanza, c'est un exemple.
Non,
ah oui,
c'est un exemple.
Parce que, au lieu
c'est
de comme faire ça qu'on nous éduque. Un yeshiva, une école Lubavitch, il a fait une école non Lubavitch.
Oui.
Je sais pas, faut lui poser la question.
Quand on voit, par exemple, quand on va à Kronaï, d'accord, quand on va dans le quartier du Ravi, oui, il y a d'autres quartiers religieux qui ont mieux réussi, qui sont mieux construits, qui sont mieux conçus. Tu comprends? Comment ça se fait? Parce qu'il y a un coût. Quand tu prends toutes les grossettes et tu les envoies en Shlichut, d'accord, le Ravi les a envoyés un peu partout. Il y a un coût. C'est-à-dire qu'il y a 5 000 sur Routefèche. C'est ça. D'accord? Bon, on va revenir à notre sujet. Donc, Veyichudze, Uretsono Amiti, Bainu, Ichod Elien Sheba Atsilut. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit que de la même manière, c'est quoi la deuxième partie de l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu? C'est qu'on a envie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est inné en nous. Même si on ne le sent pas, c'est inné. D'accord? C'est inné, c'est comme l'exemple de la parole que le Rav Stanzas a donné. Vainu, Ichod Elien Sheba Atsilut. De la même manière, la deuxième partie de l'amour, c'est quoi? C'est quoi le Lechem Ichud? C'est je dis pourquoi je fais la mitzvah? Pour que en haut, Ichud Alien Sheba Atsilut, en haut, dans le monde d'Atsilut, il y a des choses qui vont se passer. Le monde d'Atsilut va se connecter avec Ensof. Pour reprendre les termes de Kabbalah. Ça veut dire que Dieu, la partie infinie de Dieu, va s'unir avec la partie de Dieu qui descend dans le monde. On va faire le contact entre les deux. C'est quelque chose qu'on va jamais ressentir. Mais, bien qu'on va jamais le ressentir, au fond de nous, le juif a envie de faire plaisir à Dieu. C'est inné en lui. Donc quand je vais dire le Lechem Ichud, je vais faire que simplement répéter quelque chose qui est déjà inné en moi. Donc c'est pas un mensonge. Attention, la Gemara Zaken dit, je dis pas que tu vas le ressentir. Après la Gemara Zaken, dans la suite du chapitre, il va développer la première partie de l'amour. C'est-à-dire le fait qu'un juif, il va développer un amour que lui, il a envie de monter chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Sans problème. Ça c'est facile. C'est facile. Non, mais c'est accessible. D'accord? Karov Elecha. Mais, la deuxième partie de l'amour, si on n'est pas sadique, on le ressentira jamais. Mais c'est pas pour autant que quand on dit le Lechem Ichud, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est une vérité. On fait simplement dire quelque chose qui est en nous. D'accord? C'est comme si un médecin, il va venir avec un scanner, il va scanner votre corps, il va dire, voilà, ici, tu as ça. Maintenant, moi, jamais je le verrai. Le médecin, avec sa feuille de scanner, va dire, voilà ce qu'il y a ici. C'est exactement le Lechem Ichud. Vaïnou. Ichud alien sheba atzilut, anase beitaruta diltata, aliede, ichud, nefesh elokit, vidkaluluta beor hachem, amelubash, vetoromitot, choseket baem, vaïoula achadi mamash. Quand un juif, il a le réveil d'en bas. Ça veut dire quoi le réveil d'en bas? Ça veut dire qu'un juif, il va prendre son âme divine. Avec son âme divine, il va étudier la Torah. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est pas, comme on a expliqué, c'est pas que sa Neshama qui va en bénéficier, mais c'est la maison mère des Neshamas qui va en bénéficier, et automatiquement, il y a un contact qui va se faire, elle va se lier à Kadosh Baruch. Kemosh et Katoulé.
Ça va se lier à quel endroit?
Qu'elle y ait désé.
Atsilut.
Atsilut. Qu'elle y ait désé, Atsilut, c'est le début de la chute. Donc on prend au début de la chute.
Toutes les Neshamot étaient dans Biria. Donc
c'est.
On avait dit que c'était dans Biria
le trône divin. Le Gan Eden, oui.
Donc les Neshamot, la source des Neshamot, c'est.
C'est Atsilut.
C'est Atsilut.
Comme moi, c'est qu'il y a l'idée des mitiachad im gamken.
Oh là, sur le plafond, tu as des sphirotes qui sont dessinées chez toi. Quand tu dors, tu vois les sphirotes. Les mecs qui voient les étoiles, ils mettent des étoiles et tout. Lui, de mettre des sphirotes.
La carte d'avoir la carte.
Les mecs qui mettent les cartes de la galaxie.
Quand je vais dans une ville, par exemple, je ne connais pas.
Les plan, les âges et tout. Lui, dans quel sphira, dans quel machin, et il émet, il positionne, il rigole pas.
Le problème qu'on a avec les sphirotes, c'est que c'est très relatif. Ouais. C'est-à-dire que la même sphira peut être dans plusieurs endroits en même temps.
Ouais.
Puisque c'est comme l'exemple de la photo que j'avais donné la dernière fois. Rappelle l'exemple de la photo. C'est-à-dire qu'une sphira, c'est un concept. Maintenant, c'est comme j'ai dit droite et gauche. Droite et gauche, c'est un concept. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est relatif. Ça, c'est très compliqué d'avoir une image des sphirotes. D'ailleurs, ça n'existe. Enfin, des sphirotes, on peut avoir une image, mais une image de la galaxie, je crois que ça n'existe pas. On peut même pas la faire, c'est impossible.
Surtout que c'est pas géographique, comme on l'avait dit.
Oui. Alors, Vaïnou. Calier Dézé. Alors, j'avance un peu vite.
Ah bah, c'est bien. Dans quelques années, on aura un cours sur les sphirotes. Vous remarquez sur la fiche, Ravosman, les sphirotes. Vous saurez qui c'est.
Tu te rappelleras qu'un jour...
Oui, moi j'ai un copain, quoi, c'est ça, quoi. On a étudié un peu au début ensemble.
À la dimension non relative, la dimension relative des sphirotes.
Ah, ouais. C'est ça, le titre sera ça. La dimension relative du sphirote.
Voilà. On appelle le niveau de conscience, moi, mais ça correspond à ça.
Voilà.
Et ouais. Ouais, 100% de ça. Alors, donc on a la ligne qui commence, qui a lié des émitia khadim gamken.
Quel.
Ça vient. Tu vois. Qui a lié des émitia khadim Mekor à Torah va mitzvot shehu à Kadosh Baruch Hu, imekor nafsho elokit anikra b'shem shchina shem chinat memale kolamin ou chinat sovev kolamin, que moi je ketouv ma kamacher. Donc ça je l'expliquais à l'oral tout à l'heure.
Barichot, hein.
J'expliquais à l'oral. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Il y a la source des neshamot qui s'attache avec la source des mitzvot. Donc il y a un déclic qui se fait entre les deux. Il y a un déclic qui se fait entre les deux. Et ça, c'est le concept de même à l'école almine, ça c'est Dieu qui descend, qui intègre la nature, et sauve à l'école almine, c'est Dieu qui transcende la nature. Donc ça, c'est des notions, même à l'école almine, sauve à l'école almine. On verra plus loin, fin de chapitre 38, et le chapitre, fin de chapitre 48, d'accord?
On était déjà à 41.
Et le chapitre est dans le chapitre 49. D'ailleurs, c'est ça le sens du terme quand on dit que Bayom Ahou, Iyé Hashem Echad,
Ushmo
Echad. On dit que quand Machia va venir, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hachem Echad ou Shmo Echad,
sera en bas,
Dieu sera un,
comme il était en haut. Il
sera Dieu
en
sera un et son nom sera un. Ça veut dire quoi? Explique le commentaire. C'est le Zohar qui explique. Il dit qu'en vérité, qu'est-ce que ça représente le nom d'Akadosh Baruch Hu? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça représente Dieu tel qu'il est descendu en bas.
La Shrina.
Ça c'est la Shrina, ça représente le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, tel qu'on est dans le monde ici-bas, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est en bas et Dieu sont séparés, sont des entités séparées. Et nous, avec nos mitzvot, on met des connecteurs. On met des connecteurs. Et qu'est-ce que ça c'est quand tu auras Mashiach? Bayom Ahou, on aura fini de mettre les connecteurs, Bayom Ahou, Yé Hashem Echad, Ushmo Echad, tout sera connecté. Ça veut dire que, en vérité, depuis la création du monde, ce qui est en bas existe,
oui,
ce qui est en haut existe. Nous, notre rôle, c'est de faire le pont entre les deux. C'est pour ça, souvent, les gens ils posent la question, ils disent, qu'est-ce qui se passe quand je fais une mitzvah? Comment tu peux me dire que quand je fais une mitzvah, je fais quelque chose? Je vois pas quand je crée quelque chose. C'est là la réponse. La réponse, c'est que tu as raison, quand tu fais une mitzvah, tu ne crées pas quelque chose. On fait seulement que faire un pont entre deux choses, qui existent déjà. D'accord? On est seulement en train de faire un pont entre deux choses. C'est-à-dire que l'homme, au moment où il fait la mitzvah, il devient le l'intermédiaire, l'alliant.
Le moyen
entre Akadosh Baruch Hu, d'accord, entre Sovev Kol Almin qui est en haut et Memalek Almin qui est en bas. Aval, mais... Donc tout ça, c'était le deuxième niveau de l'amour. Quelle heure il est? Je sais pas, j'ai pas la montre.
24.
Oui, au niveau de la Shrina, on avait dit que lorsque tu fais la mitzvah, tu crées comme une huile au-dessus de ta tête, et tu fais le lien avec la Shrina aussi.
Exact.
Donc il y a deux niveaux. Il y a Shrina avec au-dessus, et il y a toi avec la Shrina.
Exact.
Il y a deux... Oui, il est double.
Aval. Donc tout ça, c'était, vous rappelez ce que je vous dis, dans l'amour, il y a deux détails. Premièrement, dans l'amour, on a dit, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de m'approcher de lui. Deuxièmement, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de faire ce qui lui fait plaisir, même si moi ça ne me fait pas plaisir. Alors, on a expliqué déjà le deuxième détail. On a expliqué qu'au fond de soi, un juif veut faire plaisir à Dieu, même si ça ne lui fera pas plaisir, même s'il aura le syndicat et l'Éden ni rien. Il veut faire plaisir à Dieu parce que Dieu veut ça. Et si Dieu il veut mettre des connecteurs, alors on va mettre des connecteurs, même si moi je n'ai rien des connecteurs. Je suis un simple employé, je suis en train de mettre des connecteurs entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Puisque Dieu le veut, au fond de moi je le veux aussi. Donc quand je dis le Lechem Ichud, je ne mens pas. Maintenant on va parler,
l'amour.
Maintenant qu'on a compris ça, on va parler de la première facette de l'amour. Première facette de l'amour, on a dit c'est quoi? C'est, ça c'est déjà beaucoup plus accessible. Pardon. C'est le fait de dire que pourquoi, que, comme j'aime Dieu, j'ai envie de m'attacher à lui. Donc pour assouvir un sentiment personnel. Alors ça, il va dire, ça c'est accessible. Alors ça, il n'y a pas d'excuse sur ça. Hein.
Oui, parce que l'objectif c'est toi au départ.
Aval, mais ichud nafshovit kalulata beor Hashem liot lachadim. Si, on va parler du premier détail de l'amour, qui est que pourquoi, quand on aime Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie de s'unir avec Dieu. On a envie de s'attacher à Dieu. Donc c'est personnel. C'est moi qui ai une soif. Quand on a soif, on a envie de boire. Donc lui, c'est quoi son eau? C'est quand il est attaché à Dieu. Donc là, c'est déjà un amour, j'ai envie de dire, égoïste. D'accord? Ça, il dit, « Bazer chafetz kol adam Israël bemet la mito le gamre bechol lev ufron nefesh. » Ça, il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est pas, comme tout à l'heure on a dit, il y a un amour qu'on veut la vérité de la vérité, et il y a un amour que c'est que la vérité, mais pas la vérité de la vérité. C'est-à-dire que bon, au fond de moi, je ne sais pas si je le veux vraiment.
La vérité vraie.
D'accord? Là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que la première facette de l'amour, qui est que quand j'aime, j'ai envie de m'approcher de Dieu. Donc quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de m'approcher de lui. Ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. D'où ça vient? Mais Ahava Ativit, il faudra donner les techniques, comme on a donné pour la crainte. Mais Ahava Ativit, am souteret velev kol Israël, les dof kabashem velo li paret veliot nichrat venivdal chat veshalom, mi chudo verduto itbarer veshum ofen. Quand on aime Akadosh Baruch Hu, on a hérité ça d'Abraham Avinu, le juif il naît avec le fait qu'il a envie de s'attacher à Dieu, et donc il n'a pas envie de se détacher de Dieu. D'accord? Donc pareil, hein, qui dit que vouloir s'attacher, ça veut dire ne pas vouloir se détacher. Donc il y a un détail positif, un détail négatif. A filou, bim sirat nefesh mamash, même s'il va devoir donner son âme. Ça c'est un élément qu'on avait expliqué dans le chapitre 18. Chapitre 18, on avait expliqué que le plus simple du peuple juif, quand je dis le plus simple, ça veut dire même celui qui est Racha Gamour, en vérité, au fond de lui, il sait parler, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au fond de lui, il a envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ici, le Rav Sentas, il ramène, je crois que c'est vous qui l'avez dit, M. Bellassel, la dernière fois, il ramène une phrase qui est dite au nom d'un Ger Tzedek qu'on appelait le Graf Potoski. Et il disait comme ça, il disait, ah mais c'est, ça rejoint, je crois que c'est vous qui l'avez dit.
Oui. Bon. Le Ger Potoski?
Non.
Vous n'avez pas dit le nom.
Ah,
ouais, je ne parle pas du nom.
L'idée.
Ah, il dit comme ça.
L'idée, j'ai pas encore.
Il dit que ce Ger, il a posé la question suivante. Il dit, c'est écrit dans la Gemara, qu'avant que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple juif, il est parti chercher toutes les nations. Il leur a demandé, est-ce que vous voulez accepter la Torah ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les peuples n'ont pas accepté. Bon. Ensuite, il a demandé au peuple juif, est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, le peuple juif? Ils ont dit, on veut. Ah, il a posé une question très simple, ce Ger. Il a dit, comment c'est possible que quand on est parti voir toutes les nations, tout le monde a répondu non, et quand on est parti voir le peuple juif, tout le monde a répondu oui? C'est pas possible, il n'y a pas eu des exceptions. C'est une question technique qu'il pose.
C'est pas fou, le Ger.
D'accord? Il y a un problème. Que toutes les nations, tout le monde a dit non. Pourquoi tout le monde a dit non? Regardez la réponse qu'il a répondu. D'ailleurs, ce Ger Tzedek, il est considéré comme un grand sadique dans l'histoire juive.
Comment il s'appelle?
Graf Potoski.
Quelle époque?
Il y a 400 ans d'aujourd'hui, à peu près. Un peu avant l'époque du Marsha.
Il a écrit des choses, non?
Non, mais il y a des phrases qui viennent de lui. On le considère... son kever, il est, c'est en Pologne, quelque part. Son kever, il y a des gens qui vont le voir et tout. Je sais pas si aujourd'hui on va le voir, mais... En tout cas, à l'époque, c'était connu comme un grand sadique.
Non, on dit non.
Alors, donc la question, on l'a compris. Il a posé la question, il a dit comment c'est possible techniquement que tout le monde, tout le peuple juif a accepté la Torah et que toutes les nations ont refusé la Torah. Question très simple. Et il a répondu comme ça. Il a répondu très simple. Il a dit qu'en vérité, il y a eu des juifs qui ne voulaient pas la Torah, et il y a eu aussi des goïms qui ne voulaient pas. Il y a eu des exceptions.
Qui voulaient.
Il y a eu des goïms qui voulaient la Torah. Seulement quoi. Il a dit que ça on le saura que au fur et à mesure que les générations vont avancer. Quand les générations vont avancer, les goïms qui voulaient la Torah, ils vont finir par se convertir.
C'est les guerriers de Tzedek.
C'est ça le guerrier de Tzedek. C'est ceux, eux ils descendent des Neshamot, enfin des Neshamot, on veut dire des goïms, qu'ils ont dit, nous on veut la Torah. Mais bon, leur peuple n'a pas accepté, donc ils l'ont pas reçu. Ces gens-là, ils vont finir par revenir à la Torah. De l'autre côté, les juifs qui voulaient pas recevoir la Torah, c'est les juifs qu'avec le temps, ils ont été éjectés du peuple juif. De même, c'est pour ça la dernière fois, on a posé la question, on a dit, mais pourtant dans l'histoire, on a vu qu'il y a des gens qui sont convertis. Ces gens qui sont convertis, a expliqué le Graf Potoski, il a dit que ces gens-là, c'est des gens que, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, ils voulaient pas recevoir la Torah.
Oui, mais en fait,
et c'est pour ça, deux secondes, c'est pour ça, c'est pour ça.
Laisse parler, hein. Laisse parler le rabbin.
C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait que, avec le temps, ces gens-là, que c'est eux qui ont voulu, c'est eux qui ont refusé la Torah, donc avec le temps, leur neshamot, c'est eux-mêmes qui ont décidé de les éjecter du peuple juif. C'est comme ça que l'Admor HaZaken, d'ailleurs, ici, ramène le Rav Tenza sur le nom du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il disait la phrase suivante. Il disait, jamais un non-juif s'est converti, et jamais un juif s'est converti. Comme ça, il disait. Alors, en hébreu, bon, en hébreu, en hébreu, quand on dit un goy qui se convertit, on dit itgayer, et quand on dit un juif qui se convertit, on dit ishtamed. Ça, je ne sais pas si en français, on a la traduction de ces deux mots-là. Bon.
Ah, itgayer, c'est se convertir.
C'est se convertir.
Oui.
Ishtamed,
c'est... Et ishtamed, c'est se rebeller.
Se rebeller.
On va dire...
On dit ça. Se détruire.
Non, non. Dans le sens, il est...
C'est pas Mérez, Ishtamed.
Non, je sais, ouais.
C'est se détruire.
Ouais.
C'est pourtant, on dit...
Shmat, c'est une destruction.
Ouais, Shat Shmat, c'est ça. C'est un moment de...
Bon.
Qui dit ça?
Donc, l'Admor HaZaken.
Autodétruit.
L'Admor HaZaken, il dit ça.
C'est autodétruit.
Autodétruit. Hazak.
Ishtamed.
D'accord. L'Admor HaZaken, il dit, jamais un juif s'est autodétruit, et jamais un goy s'est converti. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire qu'en vérité, au fur et à mesure du temps, Akadosh Baruch Hu, il fait que les choses reviennent en ordre. Et celui qui voulait pas accepter la Torah, ben, lui dit, écoute, tu voulais pas accepter la Torah, et ben, avec le temps, tu quitteras le peuple juif. C'est très dur, ce qu'on est en train de dire.
Donc, c'est-à-dire, c'est la même Neshama qui court.
Bien sûr qu'il y a eu Libra 8, j'attends la question à Gamliel, bien sûr qu'il y a eu Libra 8, des trucs qui... D'accord?
Alors. On a toujours appris que un juif peut pas se convertir. Qu'il est juif, peu importe s'il va se convertir, il fait tous les trucs possibles, imaginables ailleurs.
Il y en a eu quelques-uns, quand même, dans l'histoire.
Quand je dis se convertir, ça veut pas dire qu'il a arrêté d'être juif. Ça veut dire que c'est des gens qui ont quitté. Qui ont quitté le peuple juif.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus.
Quand, comment elle dit la Gemara Sanhedrin? La Gemara Sanhedrin, elle dit qu'il y a une partie des gens que En Lahem Chelek, Beloka Israël.
On a quelques-uns.
D'accord.
Ah, c'est sûr.
C'est pas juif.
D'accord.
Hein, mais ils sont
quand on parle de Imar Shemo, quand on parle de Imar Shemo, Imar Shemo.
Voilà, l'exemple.
D'accord.
Non,
attends,
c'est pas mon exemple.
C'est quoi alors?
C'est pas mon exemple.
Il y en a quoi? Il y en a eu 10 qui ont dit non.
Tu me dis,
ça je sais pas.
Recherche la vérité, c'est pas mon exemple.
Ça, c'est Dieu qui fait ses calculs. Ça, c'est Dieu qui fait ses calculs.
Autant, il faisait Pessah, il faisait manger
Kajar. En tout cas, la Gemara a dit que En lo chelek beloka Israël.
Non,
En lo chelek le lamaba. Il n'a pas de parents de futur.
Qui a dit ça?
La Gemara, Sanhedrin, elle dit clairement.
Attends, la Gemara, elle parle pas clair.
Elle parle clairement de lui. Elle dit clairement que En lo chelek le lamaba.
Pas marqué clair.
Bon.
De son nom à lui?
De son nom à qui? À celui qui a fauté?
Non, qu'est-ce qu'il a fait comme faute?
Quoi, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il a utilisé le chemin de forage. C'est la source d'utiliser. Il est mis à mort celui qui utilise le chemin de forage. Il est parti détourner tout le monde du peuple juif. Qu'est-ce que tu veux?
D'accord. Mais c'est là parce que t'es quand même à mort.
Bon, on verra ça, c'est une autre question. En tout cas, pourquoi j'amène ça ici? Pour dire que l'Admor HaZaken est ici que le concept de l'Ahava est souterré, de l'amour caché qu'on avait à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'avec le temps, on a vu qu'il y a des gens qui ont quitté l'environnement du peuple juif. Je dis pas qu'ils sont devenus goy, mais ils ont quitté l'environnement du peuple juif. Ils sont mariés avec des goyotes, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, d'accord. Très bien. Alors. Ils ont quitté l'environnement du peuple juif. D'où ça vient? D'où ça vient? Explique le Graf Potoski. Il dit ça vient de ça. C'est des gens que, à la base, d'accord? C'est des gens qu'à la base, ils ne voulaient pas recevoir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Cette avativi, cet amour caché qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, c'est un amour caché qui est inné en nous. Et si vous voyez qu'un jour, un juif, Dieu préserve, s'est converti, enfin, il s'est autodétruit, ça veut dire qu'à la base, ce juif-là, il n'était jamais juif à 100%. C'est très dur, c'est des mots très durs. D'accord? Alors, il faut s'appeler Admor HaZaken pour dire ça. Donc ça, c'est la Ahava Mesuteret. Donc pour revenir à notre sujet, cette Ahava Mesuteret qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui est le moteur de deux éléments. Premièrement, elle est le moteur de l'élément qu'un juif a la soif de s'approcher de Dieu. Ouais. Comme je vous disais la dernière fois, on peut donner l'exemple d'un Baal Teshuvah, on voit que quand il fait Teshuvah, il a la soif de faire des mitzvot. Même on a tous un petit peu ça, des fois, quand par exemple quand c'est à l'approche des fêtes, avant Rosh Hashanah, avant Kippour, on a une certaine soif de faire des mitzvot. C'est pas seulement parce qu'on a la sub du Yom Hadid, d'accord? C'est aussi pour ça.
Mais... Il est bon, hein?
On fait toutes les langues, ça y est.
Ah, il est bon, il est bon.
C'est devenu polyglotte.
C'est pas seulement.
Promets,
tu connaissais le mot polyglotte?
C'est pas seulement parce qu'on a la peur du Yom Hadid, parce que quand ça arrive des moments comme ça.
Polyglotte.
Quand ça arrive des moments comme ça, on a envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On a une soif de s'attacher à Kadosh. Ça, c'est le premier détail de l'amour. Ça provient de la fameuse souterraine. Deuxième détail de l'amour, c'est qu'on a envie de faire ce que Dieu il veut, même si nous on va pas kiffer. Ça, ce détail-là, il correspond à quoi? Ça correspond à l'échelle. Jusqu'à présent, quelle heure il est? Chez...
35.
T'as bien compris, on a fait des choses fortes.
Il dit comme ça. Donc jusqu'à présent, quand on parle de Messirut Nefesh, ça c'est encore une fois une erreur, d'accord? Toujours quand on parle de Messirut Nefesh, en vérité, l'Admor HaZaken va marquer un nouveau point ici. Encore un point. Quand on parle de Messirut Nefesh, donc on a expliqué le concept de Klal. qu'il faut savoir se donner pour le klal, il faut savoir faire des choses pour Dieu, même si nous, ça ne nous intéresse pas. Ok. Quand on parle de Messirut Nefesh en général, on s'imagine que Messirut Nefesh est donner sa vie pour Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement, j'ai pas envie de dire pratiquement jamais, mais statistiquement, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Surtout en 2009, d'accord, on n'a pas beaucoup de chance que ça arrive. Ce concept de Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu. Bon, on n'a pas beaucoup de chance que ça arrive, ce concept de Messirut Nefesh. Donc, on se pose la question, on se dit, est-ce que finalement ça nous concerne, ce concept de Messirut Nefesh ? Et là, Mourazaken va expliquer que c'est une erreur de penser comme ça. Oui. De penser que Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui intervient qu'au moment extrême. Il faut savoir que Messirut Nefesh, on peut le vivre tous les jours. Parce qu'en vérité, on a une mauvaise définition de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, en hébreu, ça veut dire don de soi. Don de soi, c'est un terme qui est très vaste. D'accord ? Donner son âme. C'est-à-dire quoi, donner son âme ? Nous, quand on entend Messirut Nefesh, on dit oui, il a donné sa vie pour Dieu, il s'est fait tuer. Mourazaken va dire, ça c'est le big Messirut Nefesh. Mais il va nous montrer comment on peut avoir le même concept de Messirut Nefesh. Ça veut dire faire quelque chose pour Dieu, même si nous, on va rien ressentir, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un point dans lequel moins on connaît, et plus on peut avoir ce niveau-là. Comme ce qu'on avait dit à la fin du Pérec même, du chapitre 40. Que moins on connaît,
bah oui.
Et plus on fait les choses bêtement, c'est-à-dire les gens qui font les choses bêtement, au final, c'est les gens qui font les choses sans Messirut Nefesh.
Bah oui.
Bon. Dans les mots. Ve'esek haTorah ou mitzvot ve'atfila ou gamken inyan Messirut Nefesh mamash. Comme on a dit, faut pas faire l'erreur de croire que Messirut Nefesh c'est seulement. Donc là il ouvre une parenthèse. Il faut pas faire l'erreur de croire que Messirut Nefesh c'est seulement quand on donne sa vie pour Dieu.
À goût, il dit.
Messirut Nefesh, il va donner des exemples. Messirut Nefesh, ça peut être également quand un juif il va être simplement en train d'étudier la Torah.
Je comprends rien.
Hein, attends, on va expliquer comment. Ou bien quand tu vas faire les mitzvot, ve'atfila, ou gam kenya misirut nefesh mamash, kemo betzeta minaguf, comme quand la neshama va sortir du corps. Donc l'admorazaken ici, il veut expliquer que misirut nefesh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver toute la journée. C'est quelque chose qu'on peut retrouver toute la journée, surtout quand on fait une mitzvah sans comprendre. Et il explique. D'accord ? Il rentre dans les détails. Il dit, kemo, vous avez la ligne ?
Alors, aguf.
Betzeta minaguf vimlot. On est à la ligne plus loin de vimlot.
Shavim, Shavim, Shana, Shana, Meharel, Tzorki Agou. Et là, Machashavta.
Donc il dit comme ça.
Là,
il dit que.
Machashavta.
Quand on. Et donc là, on va rejoindre le sujet qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que quand un juif fait une mitzvah. Quand un juif fait une mitzvah, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Je suis en train d'étudier la Torah. On va poser la question à quelqu'un qui comprend le cours. Hein, quelqu'un qui vient à un cours et comprend ce que le Rav a dit. Il vient au cours de Gemara, Baruch HaShem, il comprend tout ce que le Rav a dit. Voilà. On va lui poser la question après le cours de Gemara, tu vas lui dire pourquoi tu as étudié.
Ça m'est arrivé ce dimanche.
Hein.
Ah.
Aïe, aïe, aïe. Il m'a rappelé le Rav Kahane. Ouais.
C'est la première fois.
J'allais te dire, quand tu dis ça, ça veut dire que c'est la première fois.
Bon. Ah ouais. Alors, tu vas, donc tu...
Avant, tu venais, mais si on défait, je peux maintenant.
Justement.
T'as perdu.
La personne, imaginez-vous, vous venez à un cours de Torah.
D'après ce que je viens d'entendre, t'as perdu.
J'ai pas encore dit.
J'ai entendu, moi.
Vous venez à un cours de Torah, d'accord, et Baruch HaShem, vous comprenez tout ce que le Rav a dit, c'est intéressant. Il y a des fois des gens qui savent donner des cours intéressants.
C'est kiffant.
D'accord, c'est bon. Kiffant, c'est un cours kiffant.
C'est bon.
Très bien. Tu sors du cours, oui. D'accord.
Tu sors ça. Ouais.
Bah ouais. Tu sors du cours.
Il a jamais.
C'est mon ticoun.
Eh ben, à ce point.
Il y a des cours, on va à le cours, c'est intéressant. D'accord. Quand je sors de ce cours-là, tu vas me dire pourquoi tu étais au cours. Est-ce que tu étais au cours parce que c'est une mitzvah? Réponds-moi honnêtement.
Ouais.
Je te dis, je sais pas. Pas forcément. Pas forcément j'étais au cours parce que c'est une mitzvah. Je peux être au cours parce que c'est intéressant. Et dans l'environnement judaïque, dans l'environnement du judaïsme que je suis, eh ben, j'aime bien quand il y a des cours intéressants. Mais j'ai pas forcément. Pour être honnête, je l'ai pas fait pour une mitzvah. C'est vrai, je vais pas mentir. J'ai pas fait pour faire une mitzvah. Qu'est-ce que va être Messirut Nefesh ? Messirut Nefesh va être de se rappeler constamment que pourquoi tu fais la mitzvah, au final, pourquoi tu étudies ? Parce que Dieu t'a demandé. Comment on va expliquer ? Le Morazakan va expliquer après que chaque fois avant de commencer l'étude...
C'est quoi la plus grande Messirut Nefesh ? La Tfila ou la...
On va parler de la Tfila. La Tfila, c'est encore plus dur.
Moi, je pense que c'est la plus grande Messirut Nefesh dans la Tfila que dans le Limoud.
Oui. Parce que, comme...
Oui. Pourquoi tu dis ça ? Parce que le Limoud s'est rattaché à
la cerveau. Très simple. Parce que la Tfila... Hein, la tefila, on fait qu'assouvir un besoin de la personne, que la personne a envie de monter vers un Kadosh Baruch Hu. Alors que dans la Torah, on est en train d'étudier la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand dans la Gemara, on te dit c'est comme ça, même si tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Alors que dans la tefila, il n'y a jamais comme ça. Et dans la tefila, jamais on te dit tu penses comme ça, mais c'est pas comme ça. Dans la tefila, chaque fois, c'est moi qui essaie de monter vers un Kadosh Baruch Hu. Donc je monte et c'est un plaisir pour les gens qui savent prier.
C'est pas facile
C'est pas facile, mais c'est un kiff.
Ça peut être une contrainte.
C'est pas facile,
mais elle ne nous contraint pas.
Alors que dans le Limud Torah, c'est le contraire.
Le Limud Torah, c'est pas une contrainte, mais ça nous contraint quand on le fait.
Au final, c'est pas toi qui décides les règles du jeu. Alors que dans la Tfila, c'est moi qui décide les règles du jeu.
Ouais, mais
à mon avis...
Oui, c'est une contrainte. De faire la Tfila, c'est une contrainte. Non, mais regarde, de faire la Tfila, c'est une contrainte. Mais ça ne nous contraint en rien. Quand tu fais une Tfila, tu es obligé de rien faire. On te dit pas, fais tel mitzvah, ou fais tel machin, ou pense comme ci, ou pense comme ça, fais la Tfila. Point barre, plus qu'au, même plus. Au milieu, tu dis, est-ce que tu peux me donner ça, j'ai besoin de ça, résous-moi tel problème, ainsi de suite. Alors que le limoud, tu n'es pas contraint d'étudier. Il faut le vouloir. Mais quand tu étudies, ça te contraint à être quelque chose.
Il faut suivre les règles de Dieu.
Non, même ça te contraint, ça t'apprend à être quelqu'un, ça t'apprend à penser, ça t'oblige ça te contraint. C'est pas une contrainte, mais ça te contraint. Alors que l'autre, c'est une contrainte, mais ça te contraint pas.
Donc c'est quoi le Messirut Nefesh qu'on va nous demander ici?
C'est
clair, c'est évident. C'est quoi le Messirut Nefesh? Le Messirut Nefesh qu'on... Non, c'est quelque chose qu'on ressent, ça. Le Messirut Nefesh qu'on va nous demander ici, c'est quoi? C'est que même quand après, avec le temps, Baruch HaShem, d'accord, au début, quand on fait Teshuvah, bon, d'accord, au début, c'est difficile. Mais après, avec le temps, on prend une certaine vitesse de croisière. Et après, c'est difficile de dire que quand on vient à un shiur, on vient parce que c'est une mitzvah. Surtout si le cours est intéressant. C'est difficile de dire que je le fais parce que c'est une mitzvah. Là, quel va être le concept de Messirut Nefesh? C'est le même concept du Lechem Ichud. C'est de se rappeler, d'accord? De se rappeler. Quand je dis constamment, c'est pas constamment, ça veut dire avant l'étude. Donc c'est le fameux Yeratson qu'on fait avant l'étude. De se rappeler avant l'étude, même une fois par jour. Il va expliquer après la Noura Zaken, je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, ça va être aussi le concept du Modéani et du Elokai Neshama qu'on fait le matin avant de commencer la Tfila. Parce qu'ils sont le début de la Tfila. À quoi ça sert? Ça sert justement pour éviter, pour pallier ce problème-là. Le problème qu'on a ici, c'est quoi? C'est que, avec le temps, quand on prend une vitesse de croisière, on oublie qu'on fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, on a perdu les deux détails de l'amour. C'est quoi les deux détails? Premier détail que j'ai dit dans l'amour, pourquoi j'ai fait une mitzvah? Pour m'attacher à Dieu. Deuxièmement, j'ai dit, non seulement que je fais pour m'attacher à Dieu, je le fais pour faire plaisir à Dieu, même si moi, je ne m'attacherai pas à Dieu. Mais au final, quand on commence à s'habituer à faire Torah et mitzvah, on perd les deux. Ni je le fais pour m'attacher à Dieu, et ni je le fais pour faire plaisir à Dieu. Aucun des deux. Ça, la Moraz Zaken va expliquer, quand on aura le temps de le développer la semaine prochaine, il va expliquer, c'est ça le concept du Messirut Nefesh qu'on demande à un juif au jour le jour. Messirut Nefesh, on peut retrouver ça tous les jours. Quand on dit à un juif, tu kiffes la Torah, maintenant que tu kiffes la Torah, on va te demander, avant de ton étude, de prendre 30 secondes et de réfléchir que ton étude, elle est pour Dieu.
C'est
pas facile. Mais réfléchir sincèrement.
Comment on dit, c'est l'olishma de s'attacher, de vouloir faire une mitzvah pour s'attacher à Dieu?
Non, c'est le l'olishma. Bien sûr, c'est du l'olishma. C'est l'ishma, il n'y a pas de problème.
Avec intérêt.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étudie la Gemara, c'est pas forcément que je l'étudie pour faire une mitzvah, ni pour m'attacher à Dieu, ni pour faire plaisir à Dieu. Je l'étudie parce que bon, c'est comme ça, je suis habitué, c'est sympa, c'est intéressant.
J'ai bien sûr.
Donc on doit avoir un intérêt.
Justement.
Non, au contraire.
Non, j'ai dit qu'il n'y a aucune des deux formes d'amour. Ni l'amour intéressé, ni l'amour désintéressé. C'est pas méchant, c'est comme ça, c'est l'habitude. C'est ce qu'il dit ici. Donc il dit dans les mots... Quand un juif étudie la Torah et les mitzvot et la tfila, c'est aussi Messirut Nefesh. Quand on va quitter ce monde, Bezrat Hashem, d'accord, on va quitter ce monde à l'âge de 70 ou 80 ans. Bon,
80 ans.
Amen. Non, c'est pour reprendre le Tehillim que je dis 70-80 ans. Donc, quand on va quitter ce monde, quand on sera en haut en train de voir l'étude de la Torah qu'on a fait, on ne verra plus le plaisir matériel qu'on a eu quand on était en bas. Quand on est en bas ici, on a un plaisir matériel quand on fait une mitzvah. Par exemple, tu me demandes le Shabbat. Est-ce que quand je fais le Shabbat, je pense que c'est une mitzvah? Non, pas forcément. Peut-être qu'à quel moment je pensais ça? Quand j'aurai une affaire, grave intéressante à faire, et qu'on va me dire, c'est Shabbat, tu ne peux pas la faire. Bon, là, peut-être je vais sentir que je le fais pour Dieu. Et de manière générale, quand on fait chaque Shabbat, c'est sympa. Une fois par semaine, on se repose, on mange bien, d'accord? Il y a des cours, on se repose, c'est bien, c'est intéressant. Même si les goyim ont fait ça, ce concept, c'est un concept intéressant, c'est pas une mitzvah. Où va être le concept de Messirut Nefesh ici? Le concept de Messirut Nefesh, c'est de s'imaginer qu'on va être comme si qu'on est en train de monter au Gan Eden. Et quand on monte au Gan Eden, là-bas on s'imagine le Shabbat, c'est pas le Shabbat que je me repose physiquement. Là-bas, le Shabbat, c'est je fais la mitzvah, c'est ça. Quand un juif, il doit faire la mitzvah en bas, c'est quoi le Messirut Nefesh? C'est donner son plaisir personnel et de dire que pourquoi je fais la mitzvah? Je fais la mitzvah parce que Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Quitte à ce que ça soit un amour égoïste. comme ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je fais la mitzvah pour m'attacher à Dieu, pour faire la mitzvah de Ahavat Hashem. C'est pas grave, c'est déjà ça. Mais retrouver le côté kadosh qu'il y a dans la mitzvah, qui peut très souvent partir. Ça, c'est considéré un Messirut Nefesh. C'est pas une mitzvah, c'est pas un Messirut Nefesh comme les gens qui ont donné leur vie pour Dieu, mais c'est un concept de Messirut Nefesh.
Tu prends pas de plaisir à faire la mitzvah, à la limite.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, par exemple, le Shabbat, de temps en temps, d'accord, je sais pas, un Shabbat sur deux, un Shabbat sur trois, même au début du Shabbat, tu te rappelles, tu te dis que, même si c'est un kiff le Shabbat, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est pour Dieu.
Mais là, on parle pas du Benoni.
Tu réfléchis pendant quelques secondes.
Tu réfléchis quelques secondes.
Pardon ?
On parle pas du Benoni, là.
C'est sûr qu'on parle du Benoni. De qui on parle alors ?
Le Benoni, quand il avance, il est dans sa progression, il sait exactement
il est là. Mais le Benoni aussi. Le Benoni aussi, avec le temps, il s'habitue. Et justement, son travail, c'est de se rappeler.
Donc, Benoni, là,
c'est de se rappeler constamment. Comme disait le Rabbi de Kos, que le Rabbi de Kos, il disait...
Sa progression.
Justement, le Rabbi de Kos qui disait comme ça, il disait le plus grand galout, j'ai déjà répété plusieurs fois, le plus grand exil qui peut exister, c'est quand on oublie qu'on est en exil. Ça, il disait le Rabbi de Kos. Le plus grand exil qui peut exister, c'est quand on oublie qu'on est en exil. Ça, c'est la pire des choses. C'est comme quelqu'un qui est en prison. La pire des choses, c'est quand tellement il a enfoncé dans la prison, qu'il a oublié qu'il est en prison. Il a oublié qu'il est en prison, il a oublié que c'est pas normal d'être en prison. Que mais normalement il faut vivre comme un homme libre. Avec le temps il s'habitue, après il oublie qu'il est en prison. Ça c'est la pire des galoutes qui peut exister. Quelque part, même le Bédouni rentre dans ce piège. Avec le temps, tellement on fait les misotes, et on est dans les limites de notre corps, que on oublie qu'on est en train de faire ça pour un Kadosh Baruch Hu. Au début, quand les gens font teshuva, ils sont éblouis, mais après on oublie qu'on fait ça pour un Kadosh Baruch Hu. Ça va être le concept de Messirut Nefesh. Le concept de Messirut Nefesh, ça va être de se rappeler constamment, comme on verra Bezrat Hashem dans le cours de la semaine prochaine, se rappeler constamment comment en vérité la raison pour laquelle on fait une mitzvah, c'est pour Akadash Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a expliqué le concept de Al Yoti Adam Atzmo Min HaKlal, qu'il faut savoir qu'il faut faire une mitzvah, même si moi je peux en bénéficier, même si c'est pour le Klal Israël, même si c'est pour un bénéfice que pour Akadash Baruch Hu, c'est pas grave, il faut quand même le faire. Et la Gemara Zaken a expliqué qu'il faut savoir que c'est pas une illusion. C'est pas une illusion. Il y a des religions dans lesquelles on encourage les gens à se faire des illusions. Mais le problème, c'est qu'il arrive le moment de la désillusion aussi. Morazaken dit non, c'est pas une illusion, c'est du vrai. C'est du vrai. Ah, pourquoi je l'ai pas senti tout seul ? On a donné l'exemple. On a donné l'exemple de la personne qui apprend à parler. Et là, on a fini avec le fait. Morazaken, on a fini avec le fait, on a expliqué que le concept de Messirut Nefesh.
C'est la vie de tous.
D'accord ? Alors, on a expliqué qu'il y avait deux détails dans l'amour.
De vouloir se rapprocher
secondes, oui.
Et vouloir faire plaisir.
On avait expliqué que il y a deux détails dans l'amour. Il y a le premier détail dans l'amour qui dit que pourquoi j'aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est quoi l'amour ? C'est que moi j'ai envie de m'approcher à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Ça c'est un premier détail. Deuxième détail qu'on a dit c'est quoi ? C'est j'aime Akadosh Baruch Hu, donc je veux faire ce qui lui fait plaisir même si moi je vais rien gagner. Ça c'est Aliyot Yad Amatsuminaklal. Ça c'est une personne de jamais.
Même si je vais rien gagner.
Et là on a expliqué c'est Sigad Morazaken. Il a expliqué qu'il faut savoir que ce concept de Messirut Nefesh. Ce concept de Messirut Nefesh, quand on parle de Messirut Nefesh, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui va jamais nous arriver. C'est quelque chose qui peut nous arriver tous les jours, comme on va les rattacher, on aura l'occasion de développer la semaine prochaine. Que tous les jours, quand on développe l'amour envers un Kadosh Baruch Hu, ça peut être appelé déjà un Messirut Nefesh. La semaine prochaine, on continue ce livre.
Je croyais.